Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, agression, bagarre, arrestation. Le premier meeting d'Éric Zemmour s'est déroulé dans la tension hier. 62 interpellations. Une enquête est ouverte après l'agression de militants d'SOS Racisme qui s'étaient invités au meeting. Était-ce leur place ? Tout en déplorant la violence, droite et extrême droite pointent une forme de provocation. Une enquête est ouverte sur les faits. Chez les LR, Valérie Pécresse enchaîne après sa victoire. Déplacement chez Éric Ciotti aujourd'hui, après une interview à France Inter ce matin. Objectif, faire l'unité, alors que Ciotti met la pression pour que ses propositions très à droite soient reprises. À gauche, Arnaud Montebourg ira-t-il jusqu'au bout ? Forte turbulence au sein de l'équipe. L'autre grand chapitre de ce journal, faut-il de nouvelles mesures anti-Covid ? Les indicateurs grimpent. Le taux d'incidence explose chez les enfants. Conseil de défense sanitaire ce matin à 13h30 avec nos invités. Faut-il de nouvelles mesures à l'école ? Le protocole est-il clair et efficace ? On en parle avec deux représentantes des parents d'élèves et des directeurs d'établissement. Élèves ou parents, j'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans ce journal encore, la répression en Birmanie. La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi condamnée à 4 ans de prison. Malgré la crise, les dons aux associations toujours élevés. Une enquête qui alerte sur la dépression des sportifs. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, c'est une chanson. Notamment, nous écouterons du Neil Young. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Premier meeting, premiers incidents. La campagne d'Éric Zemmour commence sous haute tension. À Villepinte, hier après-midi, des incidents de quatre natures ont éclaté au fil de l'après-midi. Des journalistes du magazine télévisé Quotidien pris à partie, exfiltrés au début, des journalistes de Mediapart également malmenés. Avant même le discours, le candidat attrapé par le cou par un individu alors qu'il remontait la salle en direction de la scène. Vers la fin du discours, des militants antiracistes venus se faire entendre qui reçoivent une pluie de coups et de chaises. Et puis à l'extérieur de la salle, un climat très tendu entre militants pro et anti-Zemmour. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Bilan des cours ce matin, 62 arrestations.
Pour ce qui s'est passé à l'extérieur du parc des expositions de Villepinte, c'est surtout que les forces de l'ordre n'ont pas laissé le temps à tous ceux qui auraient bien voulu en découdre. Avec un placement en garde à vue dans la foulée. Hier soir, effectivement, selon le parquet de Bobigny, il y avait une soixantaine de personnes concernées et les magistrats devaient ce matin faire le tri entre celles qui devaient être levées par manque d'éléments juridiques suffisants, celles qui devaient être prolongées et puis des gardes à vue qui posent un sérieux problème de légalité. En l'occurrence, les trois gardes à vue des militants de SOS Racisme qui viennent d'être levés, et c'est une information France Inter, trois militants soupçonnés au départ d'avoir, à l'intérieur de la salle, commis eux-mêmes des violences et remis aux policiers par le service d'ordre d'Éric Zemmour. Mais ça, c'était avant que les policiers de la sûreté de Seine-Saint-Denis découvrent les premières images qui circulaient sur les réseaux sociaux et où l'on voit comment la petite dizaine de membres de SOS Racisme se sont fait violemment prendre à partie par plusieurs dizaines de personnes qui les avaient visiblement repérés au fond de la salle. Ce midi, la direction de SOS Racisme a donc confirmé que l'ONG allait porter plainte pour violence volontaire, mais aussi pour dénonciation calomnieuse contre le service d'ordre d'Éric Zemmour, qui n'a donc pas remis aux forces de l'ordre le moindre auteur présumé.
Et qu'en est-il du jeune homme qui a agrippé Éric Zemmour avant son discours ?
Eh bien, en garde à vue, selon nos informations, l'homme s'est présenté comme un fan d'Éric Zemmour, ce que les policiers sont en train de vérifier. Visiblement, ils ont quelques doutes.
À propos des militants d'SOS Racisme à droite et à l'extrême droite, de Valérie Pécresse à Sébastien Chenu pour le RN, on déplore évidemment la violence à leur encontre, mais aussi la provocation que constituait, selon ces politiques, la présence des militants d'SOS Racisme dans le meeting. À gauche, on estime que les mots et l'attitude d'Éric Zemmour ont un rôle dans l'éclatement de ces violences. Dans son discours, le candidat s'est défendu d'être fasciste, raciste et misogyne. Il s'est présenté, lui et ceux qu'il soutiennent, comme les grains de sable qui grippent la machine. Il veut répondre aux deux craintes qui hantent les Français, selon lui, le grand déclassement et le grand remplacement. En tout cas, la campagne a bel et bien commencé ce week-end. Les premiers grands meetings, donc, il n'y en aura sans doute pas beaucoup, Covid oblige. Et la droite a désormais son candidat, sa candidate, ce qui est une première. Et après cette victoire à la primaire, à la différence de François Fillon qui avait fait une pause il y a 5 ans, Valérie Pécresse enchaîne. Interview sur France Inter ce matin et premier déplacement dans un lieu symbolique, le département de son adversaire en finale, Éric Ciotti, qui a déjà semé une peau de banane sur son parcours en affirmant que le message de Madame Pécresse n'était pas le bon. Elle qui refuse de reprendre certaines de ses propositions comme la priorité aux Français pour les emplois. Éric Ciotti à qui un autre, Éric Zemmour, fait des appels du pied. Il lance, Ciotti, son propre mouvement à droite. Il faut donc essayer d'afficher l'unité avant qu'il ne soit trop tard. Anne Souhaitement, c'est l'objectif de ce déplacement de Valérie Pécresse dans les Alpes-Maritimes.
Oui, c'est une Valérie Pécresse écartelée entre les extrêmes d'un côté, le centre de l'autre, qui entame sa campagne aujourd'hui. Premier déplacement dans les Alpes-Maritimes, d'abord à Nice. Déjeuner privé avec Éric Ciotti. Ils sont attablés à l'heure où je vous parle. Ensuite, dans le village natal du finaliste malheureux à Saint-Martin-Vésubie, village martyr des intempéries l'année dernière. Une manière, et Valérie Pécresse l'a dit ce matin sur France Inter, de montrer la place que les idées d'Éric Ciotti auront dans sa campagne, même si la candidate a exclu de dénaturer son projet. Pas question de reprendre notamment les mots d'Éric Ciotti qui a fait campagne en reprenant des thèmes chers à l'extrême droite comme le grand remplacement. Mais Valérie Pécresse le sait, il lui faut retenir les électeurs et soutien d'Éric Ciotti tenté par Éric Zemmour, comme le vice-président des LR, Guillaume Pelletier, auteur d'un tweet plus qu'ambigu. Mais attention, Nice est aussi la ville de Christian Estrosi, ex-LR parti chez Emmanuel Macron, un électorat que lorgne aussi la candidate. Pas idiot qu'elle se rende là en ce premier jour de campagne. Son défi, c'est la synthèse, selon un député LR.
Anne Souhaitement dans les Alpes-Maritimes avec Georges Thau pour France Inter. Avant cette rencontre, tweet d'Éric Ciotti, je souhaite la victoire de Valérie Pécresse. Mais il ajoute, rien ne sera possible sans une droite forte. Pour la candidate, il faut donc rassembler et défendre un programme. Ce programme, il en a été question ce matin sur France Inter, l'écologie, l'énergie précisément. Un peu moins d'éolien et du nucléaire. Valérie Pécresse avec Léa Salamé et Nicolas Demorand.
L'objectif pour moi, c'est zéro carbone 2050. Dans mon programme, il y aura la division par deux du déploiement de l'éolien terrestre. Parce que il faut tenir compte de la beauté de nos paysages, il faut tenir compte de l'opposition d'un certain nombre de populations. On continuera l'éolien offshore, mais là aussi, en veillant à la protection de nos zones de pêche. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y aura toujours beaucoup de déploiement d'éolien, mais un petit peu moins rapide qu'aujourd'hui. Il y aura toujours du déploiement solaire. Je travaillerai sur les énergies du futur, notamment l'hydrogène, mais aussi tous les réseaux de chaleur, tout le recyclage. Il y aura 25% de consommation énergétique en moins et il faudra s'appuyer sur le nucléaire. De toutes les façons, il est clair qu'il nous faudra 6 EPR nucléaires de plus pour atteindre l'objectif qui sera de produire 60% d'électricité en plus. Parce que c'est ça le sujet, c'est que nous devons devenir une très grande puissance électrique et qu'on ne le fera pas sans le nucléaire et sans le renouvelable. Aussi.
Valérie Pécresse ce matin sur France Inter, interview à écouter ou réécouter sur franceinter.fr. On notera que la finaliste de la primaire écologiste, la féministe Sandrine Rousseau, salue sa victoire chez les LR. Des plafonds de verre sautent enfin. La droite essaye de se mettre en ordre de marche donc. Le président de la République de son côté n'est toujours pas officiellement candidat. Conférence de presse jeudi pour présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Quant à la gauche, elle peine à se faire entendre. Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier à la Défense. Assez d'hésitation, au combat, lance-t-il. Il a présenté son parlement de campagne, 200 personnalités, la moitié ne sont pas à la France insoumise. Dans ce parlement, on trouve l'écrivaine Annie Ernaux, Xavier Mathieu, syndicaliste qui s'était fait connaître pour son action musclée au sein de l'usine continentale de Clairoy, et l'ancien porte-parole de Sandrine Rousseau, justement, chez les écologistes Thomas Porte. Un candidat de gauche est en grande difficulté. C'est Arnaud Montebourg. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Est-ce qu'il ira au terme de la course? Le point d'interrogation, Antoine, est de plus en plus gros.
Oui, s'il va au bout, il risque d'y aller tout seul, lance l'un de ses proches. Depuis que l'ancien ministre du redressement productif a proposé le mois dernier de bloquer les transferts d'argent de particuliers vers les pays qui ne coopèrent pas en matière d'immigration avec la France, eh bien son équipe se fissure, se désagrège. Il s'est sérieusement droitisé. Il n'est pas clair dans ses idées, explique une source proche de la campagne qui met en cause le positionnement d'Arnaud Montebourg. Trop à gauche pour son cercle d'amis entrepreneurs, beaucoup trop à droite pour les militants et les élus qui le suivent depuis 2011 et risquent de quitter le navire. La meilleure illustration, c'est le changement ce week-end à la tête de l'engagement. Le mouvement censé soutenir la candidature d'Arnaud Montebourg, en désaccord avec le candidat et contraint de quitter son poste, le président laisse sa place à une direction collégiale qui représente l'ensemble des courants, explique l'équipe de campagne. Le nouveau conseiller communication promet une mobilisation sur le terrain dès samedi prochain et reconnaît aussi qu'il va falloir faire face à un autre défi, celui du financement.
Et cette campagne commence avec une menace, un point d'interrogation aussi sur la tenue de grands meetings à cause du Covid. Ce matin sur Inter, Valérie Pécresse répétait qu'elle n'organiserait pas de grands meetings jusqu'à nouvel ordre. Le président du Sénat préconise le pass sanitaire à l'entrée de ses réunions électorales. Le pass n'était pas exigé au rassemblement Mélenchon et Zemmour. Il le sera pour celui d'Anne Hidalgo samedi prochain à Perpignan. Le professeur Pialou, qu'on va entendre dans un instant sur un autre sujet, s'élève contre la tenue de ces meetings, s'en passe, même si le Conseil constitutionnel les autorise au nom de la préservation de la vie démocratique. Il estime que ce sont des machines à cluster. Car la cinquième vague de Covid continue de monter en France à l'approche de Noël. Plus de 42 000 nouveaux cas hier. La moyenne de la semaine dernière ne baisse donc pas le week-end. L'augmentation du taux d'incidence est de plus de 50% en une semaine. Taux d'incidence particulièrement élevé chez les enfants, près de 1000 alors qu'il est de 400 en moyenne nationale. Conseil de défense sanitaire ce matin, est-ce que de nouvelles mesures vont être prises pour les enfants? Vaccination, protocole sanitaire. Un nouveau protocole est en place en principe depuis la semaine dernière. Au primaire, on ne ferme plus une classe au premier cas. On teste les autres enfants. Seuls les positifs sont placés à l'isolement. De fait, le nombre de classes fermées a été divisé par deux en une semaine. Mais pour le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, on a cassé le thermomètre.
Au moment où l'incidence augmente, on dévisse, si je puis dire, le protocole sanitaire, puisqu'on l'a relâché. C'est quand même hallucinant. Dans ce pays, on ne dépiste pas les enfants. Alors, évidemment, il y a une petite agitation là depuis que cette circulation est importante. On ne dépiste pas, et puis on a complètement sorti le tracé isolé, on a complètement sorti du programme scolaire l'information sur les mesures barrières à l'intérieur de l'école, la ventilation, les capteurs de CO2. Il y a un objectif qui est celui du ministre de l'Éducation nationale, qui est de ne pas fermer les classes. On le comprend, mais est-ce que c'est au prix d'une incidence aussi élevée de circulation ?
Gilles Pialou sur France Info ce matin à propos de la vaccination. Celle des enfants fragiles devrait se mettre en place entre le 15 décembre et la fin du mois. Pour les autres, on attend l'avis de la Haute Autorité de Santé. Le protocole à l'école, les nouvelles mesures à mettre en place selon vous pour les enfants. On en parle avec deux invités à 13h30. Carole Zerbib, proviseure adjointe du lycée Voltaire et membre de l'exécutif national du syndicat des directeurs d'établissement, et Najat Belhassen, qui est co-présidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE, et elle-même évidemment maman d'une ado qui est scolarisée en troisième. J'ajoute qu'en Belgique, les vacances scolaires sont avancées d'une semaine. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Alors, quelles mesures sortiront de ce conseil sanitaire? On verra cela dans les heures à venir. Avant ce conseil, état des lieux avec vous, cinquième vague du Covid. Tous les indicateurs, Hélène, sont en train de virer au rouge.
Oui, pour preuve, ça va plus vite de vous donner les régions en dessous d'une incidence de 250 que celle au-dessus, en fait, la région, puisqu'elle est seule. Il s'agit de la Normandie, 224 cas positifs pour 100 000 habitants. Toutes les autres régions sont au-dessus, et largement même en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, au-dessus de 500. Pour rappel, 250 d'incidence, c'était à la rentrée 2020. Le seuil d'alerte maximal fixé par Olivier Véran, cela a déclenché la fermeture des bars, des restaurants, la mise en place des couvre-feux. Mais à l'époque, il n'y avait pas 88% des plus de 12 ans vaccinés. 4903 malades hospitalisés en soins intensifs au pic de la seconde vague en novembre de l'année dernière. On est un peu au-dessus de 2000 actuellement. Mais la charge hospitalière a fortement augmenté cette dernière semaine, d'où le déclenchement des plans blancs dans des hôpitaux un peu partout en France, de la Vendée à l'Alsace en passant par la Corse. Un petit zoom, Bruno, sur l'incidence chez les enfants, vous en parliez.
Oui.
Cela flambe chez les 6-10 ans. Une dizaine de départements ont une incidence au-dessus de 1500 cas pour 100 000 habitants. En tête, l'Ardèche, 1855, suivi de près par sa voisine, la Drôme, mais aussi le Jura, le Doubs ou encore les Pyrénées-Atlantiques.
Et vous parliez des hôpitaux. Certains ont en effet déclenché le plan blanc la semaine dernière. On n'est pas à saturation, mais de fait, les chiffres grimpent inexorablement. Plus de 11 000 malades. Il faut remonter à la fin août pour trouver un tel chiffre. Plus de 2 000 en soins critiques. À l'étranger, certaines régions allemandes y sont à la saturation des hôpitaux. Plus de 5 000 personnes hospitalisées pour la seule Bavière. Benjamin Illy a recueilli le témoignage d'une soignante à Munich.
Les hôpitaux sont saturés, c'est une réalité?
C'est la réalité.
Et c'est son quotidien. Elle a 64 ans, elle occupe une fonction administrative dans un hôpital de Munich. Elle souhaite rester anonyme. Ses journées, elle les passe au téléphone, elle contacte d'autres hôpitaux, guidée par une seule obsession, partagée par les soignants. Où vais-je trouver un lit? Elle décrit les patients qui restent parfois des heures dans le couloir, sur des brancards, parfois pendant deux jours, parce qu'il n'y a pas de vrai lit pour les accueillir. Le personnel soignant est à bout. Ils sont fatigués, démesurément fatigués. Certains ont démissionné ou sont malades.
Il y a toute cette partie de la population en Allemagne qui ne veut pas
de l'obligation vaccinale, vous avez envie de leur dire quoi? Il n'y a qu'une chose à répondre à ces gens. Comment on peut être aussi stupide? Ils sont égocentriques. Parmi nos patients Covid, 90% ne sont pas vaccinés. L'obligation vaccinale, c'est la seule solution, selon vous?
Pour moi, oui.
Pour en sortir? L'obligation vaccinale, elle doit être mise en place en février ou en mars en Allemagne. Mais pour celle qui fait face au virus tous les jours dans son hôpital, c'est trop tard. On ne peut pas le dire autrement. Et à tous ceux qui douteraient de la gravité de la situation, elle répond, encore une fois.
C'est la réalité.
Et l'Allemagne s'apprête à interdire l'accès aux commerces non essentiels, restaurants et salles de spectacle, musées et cinémas aux non-vaccinés. Restrictions également pour les non-vaccinés en Italie. C'est le variant Delta qui touche très majoritairement l'Europe, mais Omicron arrive bel et bien sur le continent. 183 cas confirmés au Danemark, 16 en France. À propos d'Omicron aux États-Unis, le conseiller de la Maison-Blanche sur la situation sanitaire, le docteur Fauci, affirme que les premiers signaux indiquent que ce variant est plus contagieux, mais ne présenterait pas de haut degré de gravité. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, ajoute le docteur Fauci. La situation sanitaire dans notre pays à 19 jours de Noël. Vous trouverez un autre point complet sur franceinter.fr, ce que disent les indicateurs. Et cette situation sanitaire et les difficultés économiques pour beaucoup de Français qu'elle a suscité, est-ce que cela a eu des conséquences pour les associations? Est-ce qu'elles ont reçu moins de dons au fil des mois? Bonjour Nolwenn Poupon.
Bonjour.
Vous êtes responsable d'études à France Générosité. Il y a un bilan pour l'année 2020 qui est fait en ce lundi. Est-ce que la générosité est en baisse à cause du Covid? La réponse est non.
Et non. En effet, les Français ont été extrêmement généreux en 2020. Ils ont été sensibles à tout ce qu'on a pu voir via les médias. Oui. Il y a quand même 1 million de Français qui sont tombés dans l'extrême pauvreté. Il a fallu les aider au quotidien malgré le confinement. Les associations et fondations étaient en première ligne. Elles n'ont pas arrêté leur programme de distribution alimentaire, par exemple. Et les Français ont augmenté les dons d'environ 13% sur l'année 2020.
13% par rapport à 2019, qui était déjà une année forte, hein, je crois.
Qui est une année constante.
Constante.
Là, 13%, c'est vraiment énorme.
Est-ce que vous avez des premières données sur 2021, pas encore?
Alors pour l'instant, l'année est plutôt bonne, c'est-à-dire que les Français se mobilisent. Le souci, c'est que 22% des dons arrivent sur le mois de décembre.
C'est
le mois de la générosité en France. Et donc tout se joue maintenant. Et c'est pour ça qu'on appelle les Français à se mobiliser pour soutenir les associations.
Et vous appelez d'autant plus que l'un des enseignements de cette étude, c'est que les Français donnent quand ils sont sollicités. Ils ne donnent pas forcément spontanément, donc les appels aux dons et les visites dans la rue, entre guillemets, sont importants.
Les Français, ils sont généreux, mais ils ont besoin de comprendre qu'il y a un besoin pour donner. On parle avec le cœur.
Ouais.
Donc quand les médias expliquent une problématique et une solution, les Français vont donner. Quand on va recevoir un courrier pour solliciter un don, on va plus forcément y répondre. Si on ne sollicite pas les donateurs, ils ne vont pas faire de dons. Ce qui est incroyable également en 2020, c'était la poussée du digital.
Oui.
Les gens, comme ils étaient enfermés chez eux, il y a eu une augmentation de 72% des montants de dons faits en ligne parce qu'ils ont quand même voulu se mobiliser malgré cette impossibilité de sortir de chez eux.
Est-ce que le profil des donateurs a changé? On sait que c'est des personnes plutôt âgées. Est-ce qu'on voit arriver des jeunes?
Alors, les jeunes arrivent un petit peu, mais en effet, le donateur principal est plutôt une personne âgée. Environ un quart des donateurs a plus de 65 ans. Par contre, on se rend compte que quand les gens donnent, même s'ils sont moins nombreux à donner, l'effort de don qu'ils font est plus important car leurs revenus sont moindres.
L'effort proportionnel. Qu'en est-il des bénévoles? La question des associations a été posée dès le début du confinement sous l'angle des dons, mais aussi du manque de bras. Qu'en est-il? Est-ce que les associations perdent des bénévoles?
Alors, elles en ont perdu parce que certains n'ont pas pu sortir de chez eux avec le confinement, mais par contre, elles ont fait face à une envie d'aider et d'agir. Je pense aux banques alimentaires, je pense au Secours Populaire. Le Secours Populaire a eu une augmentation de 45% des personnes qui sont venues bénéficier de leur distribution d'urgence. Donc pour ça, il fallait de l'argent en plus pour y répondre, mais également des bras. Donc les Français continuent de se mobiliser en bénévolat.
Je voudrais vous faire réagir, Nolwenn Poupon, à d'autres chiffres qui sortent aujourd'hui. C'est ceux de la Fondation de France, son rapport sur les solitudes. Solitude des jeunes en particulier. Et ce constat, un jeune sur cinq se dit isolé dans ce rapport. C'est deux fois plus que l'année précédente. Et c'est long de sortir de l'isolement. La réouverture des bars et des restaurants après le confinement ne suffit pas. Écoutez ce que dit à ce sujet Axel Davzac, la directrice générale de la Fondation de France.
Chez les jeunes, passer de 10 à 20%, alors même que quand on est jeune, on est plutôt dans une situation de vie où on a un réseau d'amis, on a une famille et les réseaux sociaux, et en tout cas les liens avec le numérique dont on pouvait penser qu'ils allaient compenser ou en tout cas mieux compenser chez les jeunes, ça n'a pas été le cas. Le contact à travers les réseaux sociaux, ce n'est qu'un faible palliatif finalement à l'existence de ce lien social qui est tout à fait indispensable. On sait que la reconstruction du lien social est très longue. Il ne suffit pas de dire on peut retourner en cours, on rouvre les restaurants, les cinémas, on recrée de la vie sociale pour que ces personnes y retournent, parce que en fait, retourner vers les autres, c'est un travail qui est long et qui nécessite aussi une prise en charge globale.
Nolwenn Poupon, vous qui êtes responsable d'études à France Générosité, vous le constatez, ce lien social qui s'effrite au fil des mois de crise sanitaire?
On sait que les jeunes, en effet, les jeunes et les personnes âgées ont beaucoup souffert de cet isolement à différents stades de leur vie. Par contre, c'est vrai que les associations, elles permettent ce lien social au quotidien. Ouais. Elles permettent, via les réseaux de bénévoles, de se sentir impliquées, de se sentir soutenues et de participer à un élan collectif pour recréer une nouvelle société, un peu cette société d'après, du monde d'après dont on a toujours parlé. Nous, on y croit dans le secteur associatif. Et plus on sera nombreux en bénévoles ou en donateurs, plus on arrivera à le créer.
Je reviens sur la hausse des dons qu'on a constaté l'année dernière. C'était une année très particulière. Chacun était conscient qu'il fallait se serrer les coudes. Est-ce que vous redoutez que l'effort régresse dans les mois qui ont suivi, soit cette année, soit en cette fin d'année, soit l'année prochaine?
Bien entendu, c'est toujours un risque, parce que sur une urgence, on attire déjà de nouveaux donateurs qui parfois ne donnent que dans l'urgence extrême et la nécessité. Tout l'enjeu maintenant pour les associations, c'est de parler ensemble et de leur expliquer ce qu'on fait et pourquoi on a besoin des dons. Et c'est pour ça que nous, chez France Générosité, on a créé le site infodon.fr qui permet à chaque Français de trouver la cause qu'il souhaite soutenir et choisir son don en pleine conscience.
Et faire transparence, c'est important. Vous entendez encore 25 ans après parler de la crise de l'ARC, l'association de recherche sur le cancer où il y avait eu des malversations. On vous en parle encore aujourd'hui alors que c'est totalement terminé.
Voilà, un mauvais cas va jeter toute la
un discrédit
sur le secteur. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis 25 ans, le secteur, il est extrêmement contrôlé. Une association qui collecte des dons est beaucoup plus contrôlée qu'une entreprise par an. La Cour des comptes, l'IGAS, on a des labels indépendants qui viennent contrôler. Tous les bailleurs publics viennent également dans les associations vérifier les comptes. Donc, on a envie de les rassurer, les donateurs. Venez, posez-nous les questions, on vous répondra.
Et donc, infodon.fr pour en savoir plus. Merci beaucoup, Nolwenn Poupon, d'être passé dans les studios de France Inter.
France Inter, le 13-14, Bruno Duc.
Il n'y a pas la moindre pause dans la répression en Birmanie. 10 mois après leur coup d'État, les militaires condamnent Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, à 4 ans de prison. Motif avancé, Valérie Crova, incitation au trouble public et violation des règles sanitaires.
Des accusations bidons qui cherchent à asphyxier les libertés pour Amnesty International. Un procès truqué pour Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. La dame de Rangoon paye la victoire de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, aux législatives de 2020, qui l'avait propulsée à la tête de l'exécutif avant qu'elle ne soit renversée par un coup d'État de la junte en février dernier. Aung San Suu Kyi est accusée de multiples infractions, importation illégale, de talkie-walkie, sédition, corruption, fraude électorale, autant de charges dont les peines cumulées pourraient se traduire par plus de 100 ans de prison si elle était reconnue coupable, ce qui ne fait guère de doute. Tenue au secret dans la capitale birmane, Naipi Do, la prix Nobel de la paix, âgée de 76 ans, pourrait ne pas purger sa peine ni les suivantes en prison. Elle devrait être à nouveau assignée à résidence, comme elle le fut pendant 15 ans, de 1995 à 2010.
Et la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU déplore la condamnation d'Aung San Suu Kyi. Le gouvernement britannique parle de tentative effroyable d'étouffer l'opposition. L'Union européenne appelle à nouveau et de manière urgente à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. C'est un sujet dont on parle régulièrement, les échouages de dauphins, de cétacés qui se font prendre dans les filets des pêcheurs. Pour éviter ces échouages, cet hiver, sur les côtes françaises, France Nature Environnement demande une mesure radicale, la suspension provisoire de la pêche dans le golfe de Gascogne. Elle dépose, France Nature Environnement, 2 recours aujourd'hui devant le Conseil d'État. Écoutez Jérôme Greffe, qui est juriste au sein des FNE.
Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, ce sont des mesures qui sont recommandées par les scientifiques, ce sont des mesures de fermeture spatio-temporelle des pêches, de manière provisoire, suspendre les pêches qui sont concernées par ces captures accidentelles de cétacés pour permettre à l'espèce de pouvoir se reposer et d'éviter que des milliers de dauphins ne meurent encore cet hiver dans les filets. donc ce serait de janvier à mars et d'un mois durant l'été. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de mettre les pêcheurs en difficulté. Aujourd'hui, il y a urgence sur le plan écologique et cette mesure, elle peut être totalement financée via le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, ce qu'on appelle le FEAMPA, qui est un fonds européen qui permet, quand ces arrêts temporaires de pêche sont décidés pour des mesures de conservation, d'indemniser les pêcheurs pour qu'ils gardent un niveau de vie qui soit bien évidemment acceptable.
Propos recueillis par Sandy Dauphin, c'est une concurrence qui est apparue ces dernières années. Ariane va développer un mini lanceur réutilisable pour contrer la concurrence de SpaceX, annonce de Bruno Le Maire ce matin. Il visitait un site d'Ariane Group à Vernon dans l'Eure, en Normandie. C'est un sujet dont on parle peu, la dépression des sportifs. Une toute dernière donnée, une toute dernière enquête est inquiétante. Un quart des sportifs évoque le fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée par le comité éthique et sport qui appelle urgemment à une meilleure prise en compte du mal-être psychologique des athlètes. C'est aussi pour un meilleur accompagnement que la nageuse Ludivine Blanc témoigne sur France Inter. Auprès de vous, Fanny Le Chevestrier.
Je pleurais tout le temps, j'allais voir mon entraîneur, je lui disais que ça allait pas. Et il me disait, non, c'est bon, tais-toi et nage.
Nous sommes en 2018, Ludivine a alors 22 ans, elle enchaîne les bons chronos dans les bassins, mais la tête ne suit plus, elle dort de moins en moins, perd du poids en même temps que l'envie de rire, mais rien n'y fait. Son entraîneur s'obstine à nier la souffrance de sa nageuse.
Lui me répétait, mais non, regarde les résultats que tu fais, c'est pas vrai, de toute façon t'es la meilleure du groupe, regarde, en plus tu viens de faire un record de France, arrête de te plaindre.
Il faudra 8 mois et un changement de club avant qu'un médecin ne mette un mot sur le mal de Ludivine, la dépression. Elle mettra près d'un an et demi à sortir la tête de l'eau.
J'en veux à personne. J'ai eu une période où c'était pas en colère, c'est j'étais un peu triste en fait parce qu'on m'entendait pas. Parce que c'est pas quelque chose qu'on dit parce qu'un sportif va bien. Et du coup, j'avais pas le droit de dire que ça allait pas. Je pense qu'en témoignant, on peut commencer à changer la donne et surtout, ce qui serait bien, ça serait que on soit écouté.
Témoigner pour faire évoluer les mentalités, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de structures d'accompagnement psychologique des sportifs. Mais le travail est encore long. Au bord des bassins, certaines de ses concurrentes lui rappellent encore aujourd'hui sa dépression pour mieux souligner sa supposée faiblesse.
Et pour ne pas rester sur cette note sombre, plaisir, Angèle était ce matin l'invitée de France Inter dans l'émission d'Augustin Trapenard, Boomerang, elle qui vient de sortir son nouvel album 95. Question à la mode Trapenard, quand le concert approche, que vous sentez la foule s'amasser dans la salle, rien que pour vous, qu'est-ce que ça fait ?
C'est une sensation assez particulière parce que le corps il est un peu en alerte.
Ouais.
Et il y a cette adrénaline qui monte, mais en fait on est très concentré en même temps.
Et une fois que vous arrivez sur scène, quelle Angèle est-ce que vous devenez ?
En tout cas, il y a un instant très étrange qui se passe où je prends pas conscience de ce qui se passe. Je suis pas en pleine conscience, en mode « Ah, je suis sur scène, il se passe ça ». Je crois que je suis en protection, parce que sinon je serais submergée par l'émotion. Et je crois que je fais mon travail, je prends du plaisir et parfois, il y a des moments où il y a des prises de conscience, mais c'est à ce moment-là que je peux mettre à pleurer ou être très très émotive.
Angèle avec Augustin Trapenard ce matin sur France Inter. L'intégralité de l'interview est à réécouter sur franceinter.fr à la rubrique Boomerang, évidemment. Dans un instant, la météo.
La CARAC se bat pour moi. La CARAC est une mutuelle d'épargne solide et engagée qui défend mes intérêts. Sur la plupart des produits d'épargne, la CARAC ne prend aucun frais sur mes versements. 0%. En faisant le choix d'investissement responsable, la CARAC donne du sens à mon épargne. Et mon conseiller expert CARAC est toujours à mon écoute. Voilà pourquoi je suis à la CARAC.
Retrouvez les conditions d'adhésion sur carac.fr. CARAC, engagé pour l'avenir de votre patrimoine. Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Mon maître et mon vainqueur. Vasco se consume pour la flamboyante Tina. Tina aime Vasco. Vasco jalouse l'insipide fiancée de Tina. Un trio amoureux, explosif, au cœur d'une tragicomédie romantique follement drôle et pétillante, où passion et raison s'affrontent dans un duel jubilatoire. Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable est un roman d'amour brillant et virevoltant, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, un livre Gallimard.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
De nouvelles pluies à l'ouest dans les heures à venir.
Oui, de l'Aquitaine vers le nord-ouest et vers le nord-Pas-de-Calais avec du vent qui va se renforcer autour de 100 km à l'heure en fin de journée près de la Manche. Sur les Pyrénées, toujours un petit peu de neige au-dessus de 2000 mètres. Soyez prudents, le risque d'avalanche reste fort. En allant vers l'est, c'est encombré avec parfois une petite ondée et ça va se gâter au fil des heures avec l'arrivée des pluies. Il neigera en montagne ce soir et cette nuit. Un peu de neige possible aussi jusqu'en plaine sur le nord-est. Près de la Méditerranée, c'est du soleil avec du vent fort jusqu'à 90 km à l'heure. Les températures, elles sont trop justes à l'est, plus agréables à l'ouest avec l'arrivée des pluies. 4 degrés à Nancy, à Besançon, 5 à Lille et à Lyon, 8 degrés à Paris ou Limoges, 10 à Agen, à Nîmes, 12 pour Brest et 14 à Cannes. Et puis demain, on retrouvera notre perturbation sur le flanc est et une seconde arrivera par la Bretagne.
Quand vous dites notre perturbation, c'est qu'elle s'enchaîne. Merci beaucoup Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
42 252 nouveaux cas de Covid hier en France, c'est la moyenne de la semaine. Les chiffres ne baissent pas, même un dimanche donc. Alors que le pic de la cinquième vague n'est pas atteint, il y a plus de 11 000 personnes à l'hôpital désormais, plus de 2 000 en soins critiques et le taux d'incidence du virus explose chez les enfants, les 6-10 ans. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin, est-ce qu'il faut de nouvelles mesures pour protéger les enfants et ceux qu'ils peuvent contaminer? À l'école primaire, un nouveau protocole est en place en principe depuis la semaine dernière. On ne ferme plus une classe au premier cas positif, mais on teste systématiquement les élèves quand un cas apparaît et seuls les positifs sont placés à l'isolement. De nouvelles mesures ou pas dans les établissements scolaires? Faut-il accélérer la vaccination des plus jeunes? Le nouveau protocole est-il clair pour tout le monde? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages, que vous soyez enseignant, élève ou parent d'élève. Nos deux invités pour dialoguer avec vous jusqu'à 13h45, Najat Bellassène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE et maman d'une adolescente scolarisée en 3e. Et bonjour Carole Zerbib.
Bonjour.
Proviseure adjointe du lycée Voltaire, membre de l'exécutif national du syndicat des directeurs d'établissement SNPDEN. Et tout de suite, un premier témoignage, une première question au standard. Julie. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice d'école.
Oui, et maman aussi, donc j'interviens pour les deux. Moi, j'ai pas vraiment de questions, je voulais surtout apporter un témoignage. Je témoigne.
Allez-y, je vous écoute, j'ai les oreilles grandes ouvertes.
Alors, dans mon foyer, mercredi soir, par autotest, il y a mon mari et une de mes filles positifs au Covid. Alors que ma fille aînée et moi-même, on était négatifs à cet autotest. On s'est quand même fait tester une PCR et moi antigénique encore négatif. Mais étant donné qu'on est vacciné, en fait, avec ma fille depuis vendredi, elle devrait aller au collège et moi, j'aurais dû aller travailler en tant qu'enseignante avec mes collègues.
Oui.
Moi, je me sentais pas bien, donc je suis allée voir mon médecin qui m'a dit que ça doit être défaut positif. Donc, en effet, j'ai fait un PCR, donc je suis en arrêt, mais parce que je sentais que ça n'allait pas. Et ma fille devrait donc, qui vit depuis mercredi avec 3 personnes positives, devrait être au collège sous prétexte qu'elle est vaccinée. Nous, on n'a pas trouvé ça très responsable. Donc, on l'a gardé à l'isolement avec nous, parce que on imagine mal que même vaccinée, elle risque pas de l'attraper en vivant dans notre foyer.
Et donc de contaminer.
Voilà. Et donc de contaminer. Donc voilà, on trouve pas ça très responsable d'envoyer les enfants. C'est très susceptible quand à partir du moment où c'est dans le même foyer, on trouve que c'est quand même assez dangereux. Et puis chose où je voulais intervenir, c'est que moi j'ai ri jaune hein, quand j'ai entendu votre question. Le nouveau protocole est-il clair? Alors clair, il l'est, mais en fait au niveau de la gestion en tant que moi en tant que directrice d'école, c'est ingérable. Il faut savoir que les directeurs d'école, c'est des enseignants, ils sont en classe. Comment on veut qu'au compte-goutte, demi-journée après demi-journée, on vérifie les tests négatifs pour que les enfants puissent revenir, sachant que à un moment il y en a 3, donc on vient de fermer une classe, on la rouvre, mais hop, on a 3 cas, on la referme. C'est ce qui s'est passé dans la classe de ma fille, hein, et c'est ce qui se passe dans plein d'autres classes là. voilà, donc on passe notre temps à ouvrir des classes, à les fermer. Et pour les parents, bah c'est pas clair. Non, c'est pas clair.
Merci Julie pour votre témoignage. Mais peut-être question à la parent d'élève, la représentante des parents d'élèves, Najat Belhassem. D'abord, vous entendez beaucoup d'histoires comme celle que nous racontait Julie sur une partie de la famille positive, que fait le reste, et la définition qui est floue au fond de qu'est-ce qu'un cas contact. C'est aussi cela qu'il y avait dans son témoignage.
Oui, alors on a bien sûr beaucoup de parents qui font comme la maman que l'on vient d'écouter, hein, c'est-à-dire que quand on a des symptômes, on va se faire tester, et les parents sont parfaitement responsables là-dessus, ils font tester leurs enfants, contrairement à ce qu'on a pu entendre précédemment dans d'autres discours politiques. Les parents sont tout à fait responsables là-dessus et font tester leurs enfants et les gardent le cas échéant quand ils sont positifs. La seule chose, si vous voulez, que les parents veulent aujourd'hui, c'est qu'il y ait dans les établissements scolaires des choses qui soient mises en place pour que les classes ne ferment plus, en fait. Et on en est encore loin. En effet, garder les enfants à la maison, c'est un vrai casse-tête, quoi. Aussi pour les parents.
Carole Zerbib, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la définition d'un cas contact aujourd'hui dans les établissements scolaires ?
Alors, un cas contact, c'est un élève qui a passé plus de 20 minutes avec un autre élève, ou un personnel, hein, ça peut être aussi un personnel, sans masque. Voilà, la définition du cas contact, c'est ça. Alors, quand un élève est cas contact, on lui demande de se tester aussitôt. S'il est positif, il rentre chez lui. Oui. S'il est négatif, il reste dans l'établissement.
Donc, s'il y a risque, y compris s'il y a un malade dans sa famille, premier réflexe, on teste. Et si le test est négatif, il peut retourner à l'école. C'est ça la règle?
Tout à fait. En fait, c'est le contact tracing. Hein. On teste au maximum pour trouver les cas positifs. Et quand les élèves sont négatifs, ils restent dans l'établissement. Le but étant que les élèves soient le plus possible dans l'établissement.
Est-ce que c'est une, pardon de l'expression un peu légère, une tannée pour vous au lycée Voltaire, comme pour la directrice d'école qu'on entendait, d'appliquer ce protocole qui fait que on passe d'une situation à l'autre, quasiment d'une demi-journée à l'autre?
Alors, c'est moins compliqué dans le secondaire que dans le primaire. Effectivement, nous avons énormément de cas positifs, à la fois, là on la sent en fait, la cinquième vague, à la fois chez les personnels et chez les élèves. Les familles nous signalent un cas positif, on recherche les cas contacts, mais ça on a l'habitude de faire depuis la première vague. On recherche les cas contacts et puis on demande aux élèves de se tester. C'est pas plus compliqué qu'avant, on a l'habitude. Maintenant, il y a une certaine routine qui s'est installée, les personnels le savent et on fait ce qu'il faut.
Najat Belhassem, conseil de défense sanitaire donc ce matin, est-ce que la FCPE demande des mesures supplémentaires? Alors je vais préciser ma question, petit 1, est-ce que vous souhaiteriez que les vacances scolaires soient avancées?
Petit 1 comme vous dites.
Petit 1, exactement.
Les vacances scolaires. Moi, je vais être très claire avec vous. Hein. Les élèves, ça fait déjà quelques temps qu'ils pâtissent de la situation. Donc, on avance les vacances scolaires, qu'on ferme les établissements. C'est un choix que fera le gouvernement. Par contre,
vous appelez à ça ou pas?
Ah non, nous on n'appelle à rien du tout. Hein. On peut pas appeler nous, ce qu'on voudrait, c'est que nos enfants aillent le plus possible à l'école avec une scolarité quasiment normale. Ça fait 2 ans qu'on vit cette crise sanitaire. Et encore une fois, face à une vague comme celle qu'on est en train de vivre, il n'y a aucune autre mesure que celle de fermer les établissements scolaires qui sont proposés. Donc si vous voulez, c'est aussi ça qui nous met un peu en colère en tant que parents. C'est qu'on a l'impression qu'on fait du bis repetita à chaque fois. Donc là, on va encore nous annoncer qu'on va sucrer, excusez-moi le terme, une semaine de plus aux élèves. Ça n'est pas normal.
Encore, hein. C'est pas acquis encore.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, c'est dans les éventualités. Ça n'est pas normal que ce soit dans les éventualités. Normalement, il y aurait dû avoir d'autres mesures.
Et alors, quelles autres mesures appelle la FCPE? Est-ce que c'est de l'ordre capteur de CO2 pour mesurer l'aération dans les classes? Est-ce que c'est la cantine qui est concernée? Et puis, je poserai la question à Carole Zerbib également.
Oui, alors, les mesures, vous l'avez dit, il y a des mesures de gestes barrières qu'on ne peut pas actuellement respecter dans les établissements scolaires parce qu'on n'a pas les moyens techniques, humains, de le faire. On n'a aucun moyen matériel. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va installer des capteurs de CO2, des purificateur d'air, la réalité, c'est que c'est très peu installé dans les établissements scolaires et que, en fait, les établissements scolaires ne peuvent pas ouvrir les fenêtres pour aérer pendant 10 minutes, toutes les heures, quoi. C'est pas possible en ce moment. Donc, il y a déjà ça, plus les lave-mains qui ne sont pas en nombre suffisant, et notamment chez les petits, hein, on le sait, c'est hyper important de se laver les mains régulièrement. Ça n'existe pas non plus. Donc, il y a plein de mesures pour respecter les gestes barrières qui ne sont pas mis. Le personnel sanitaire, je n'en parle pas. Non, voilà, les infirmières scolaires, les médecins scolaires, etc. Là, aujourd'hui, les parents, quand ils ont une classe ferme qui a un cas contact, on est obligé d'aller faire tester son enfant à l'extérieur. Le problème, c'est que les laboratoires sont surchargés, oui. Les pharmacies, il y a la queue partout. Et donc, du coup, ça rajoute du temps en plus, quoi.
Carole Zerbib, au lycée Voltaire, c'est une question de manque de moyens pour appliquer des gestes simples comme l'aération, comme le lavage des mains. C'est aussi ça que vous rencontrez ?
Alors non, nous on a ce qu'il faut pour que les élèves puissent se laver les mains. Dans toutes les salles, il y a du gel à disposition des élèves. On a la chance aussi d'être dans un beau bâtiment assez vaste dans lequel on peut facilement ouvrir les fenêtres. Le point sensible, ce serait la demi-pension, puisque là on est on applique le protocole niveau 2 qui n'impose pas de réduire la jauge à la demi-pension. Donc là les élèves sont sans masque pendant entre 20 à 30 minutes, en train de manger, pendant la pension, pendant le temps du repas, les uns à côté des autres. Bon, ça pourrait être un peu le point sensible, mais en même temps, on a la possibilité d'ouvrir et d'aérer. La question des purificateurs d'air et de capteurs de CO2, nous, on a eu une dotation, mais qui ne répond pas du tout à nos besoins. Donc, ce sont les collectivités territoriales qui doivent nous pourvoir avec ces appareils. On a une soixantaine de salles, on a eu en tout 3 purificateurs d'air, ce qui est quand même très, très léger. Et c'est vrai que ça pourrait être une solution. Oui. Mais voilà, là, il y a un manque de moyens qui fait... Enfin, je ne sais pas, mais enfin, on n'a pas ces purificateurs d'air.
Les autotests pour les élèves de 6e, est-ce que vous les avez vus arriver ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est simple pour vous ? Alors, je peux témoigner, hein, ma fille en 6e a reçu son autotest, on a fait le test. Après, vous en faites quoi de ce test ? Et est-ce qu'il est facile à lire ? Est-ce que les parents jouent le jeu ?
Alors, nous, on a remis les boîtes d'autotests aux élèves. Ouais. Maintenant, il n'y a pas une obligation des On a expliqué aux familles ce qu'ils devaient faire, tester leurs enfants 2 fois par semaine. Mais on n'impose pas un retour des familles. Donc on ne sait pas vraiment. Voilà, c'est pas nous qui vérifions si ces tests sont faits ou non.
En tout cas, vous les avez reçus.
On les a reçus, on les a distribués aux élèves, oui.
Marie-Hélène au standard. Bonjour Marie-Hélène.
Oui, bonjour. Bon, je voulais savoir, parce que c'est un peu difficile de définir les cas contacts, lorsque l'un des deux parents, père ou mère, est malade de la Covid, donc testé positif, les enfants sont immédiatement testés et négatifs. Sont-ils exclus de l'école ? Si oui, pour combien de temps ? Sinon, à quelle fréquence doit-on refaire les tests ? L'un est en primaire, l'autre est en collège.
Question très claire, Carole Zerbib. Alors, on a déjà répondu, mais il faut vraiment repréciser les choses. Allons-y.
Eh bien non, tant que l'élève n'est pas positif, il peut fréquenter l'école. En tout cas, dans le secondaire, c'est comme ça.
Et à quelle fréquence est-ce qu'il faut refaire un test ? J'apprends que mon père ou ma mère a le Covid. Je fais un premier test négatif. Est-ce que d'abord, il faut un PCR ou est-ce qu'un test antigénique suffit ? Et est-ce que je dois refaire un autre test 3 jours après, par exemple ?
Alors, il faudrait là faire un PCR parce qu'on sait que c'est le plus fiable. Ouais. Donc c'est ce qu'on recommande au personnel qui nous
recommande, mais pas obligation.
Voilà, c'est pas une obligation, hein, c'est ce qu'on recommande parce qu'on on sait maintenant que c'est le plus fiable et que là, il y a quand même, c'est important quand même puisque c'est intrafamilial, c'est important qu'on ait une réponse fiable. Et si l'élève est négatif, il peut rester dans l'établissement. S'il est vacciné, attention, s'il est vacciné,
ça c'est pour le secondaire. Najat Belhassen, est-ce que vous pouvez nous dire la règle pour le primaire ? Un enfant à un de ses deux parents positif. Il fait un test, le test est négatif. Est-ce qu'il doit refaire un test quelques jours après ou est-ce qu'il peut retourner tranquillement à l'école ?
En cas de test négatif, il peut retourner à l'école le lendemain. Ça, c'est ce qui a été annoncé et ce qui est annoncé d'ailleurs dans la plupart des établissements scolaires. Moi, je voudrais juste rassurer quand même la maman également et faire part d'une expérience personnelle puisque moi, j'ai eu la Covid-19. Hein, ma fille est en collège. Quand j'ai fait un premier test faux négatif, je me suis fait tester une deuxième fois et tout de suite je me suis mise à l'isolement. Donc nous, ce qu'on demande aux parents dans ces cas-là, c'est vraiment de bien respecter ce que la sécurité sociale préconise, c'est-à-dire que le parent en question, y compris dans l'enceinte familiale, doit se mettre à l'isolement. pour éviter justement que de contaminer le reste de la famille. Et ça marche a priori, puisque moi, ma fille a été testée négative et retournée à l'école.
Bien noté. Carole Zerbib, dernière question, après presque 2 années scolaires sous Covid, comment sont vos élèves ?
Ben, nos élèves sont quand même plutôt contents d'être au lycée, hein, parce que ça a été difficile. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes de... Là, on vient de faire les conseils de classe et on voit, les enseignants disent qu'il y a des problèmes de concentration, de mise au travail. Et puis aussi des choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été faites. Voilà, donc un petit retard scolaire. Et puis aussi sur le plan psychologique, hein, il y a des élèves qui sont en détresse, enfin, pas très bien. Et c'est vrai que tant qu'on peut maintenir les élèves à l'école, il faut vraiment qu'on puisse le faire.
Et voilà. Lassitude avec le masque, vous êtes obligé de faire la police du masque en permanence, ça se relâche ou pas ?
Oui, ça se relâche. Et on est obligé de faire la police du masque, oui.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Messieurs les Anglais, parlez les premiers.
Oui, l'intimité entre le français et l'anglais, c'est bon de la rappeler en ce climat de crise entre les deux pays.
En ces moments de légère tension. En effet, avant vous, il y aura le feuilleton. Nous retrouvons nos 5 Français dans la campagne électorale. Nous les retrouverons régulièrement jusqu'au mois d'avril. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Alors que ce week-end, on a pu observer depuis l'Antarctique une éclipse solaire totale. C'est avec l'auteur du livre Une éclipse que vous parlez chanson aujourd'hui. Lui-même est tout d'abord chanteur, souvenons-nous de Caravane, Raphaël. Raphaël Haroche et Une éclipse, c'est son deuxième recueil de nouvelles.
Il vient de paraître chez Gallimard, qui avait d'ailleurs déjà publié son premier recueil, Retourné à la mer, pour lequel Raphaël a obtenu il y a 4 ans le prix Goncourt de la nouvelle. Il faut dire que ces textes sont un bonheur à lire. 12 histoires dans lesquelles on croise un couple au bord de la séparation, une femme au bord de la mort, un joueur de tennis raté, un toutou prénommé Bowie, le grave alterne avec l'absurde. Et je lui ai d'abord demandé ce qu'il y avait de commun et de différent entre écrire une chanson et écrire une nouvelle.
On est beaucoup plus narratif dans une nouvelle, parce qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle et raconter une histoire, alors que dans une chanson, c'est pas nécessaire de raconter une histoire. C'est comme un poème, il peut juste y avoir 4 phrases. C'est des choses très différentes, je crois, mais en même temps, peut-être c'est un peu le même muscle. Je dirais que moi, c'est comme 2 activités qui se complètent, mais j'ai l'impression que la musique, c'est quelque chose plus dans les sensations, c'est plus intérieur, la musique. On croit à une phrase de Bernard Lavilliers, et la musique est un cri qui vient d'intérieur. Vous connaissez cette chanson ? There's a lot to learn for wasting time. There's a heart that burns. There's an open mind. Look out for my love. Look out for my love. Look out.
Bon, mais c'est pas Bernard Lavilliers qui a choisi Raphaël, c'est un titre de Neil Young qu'il a choisi de nous faire écouter, Frédéric, Look Out For My Love.
Autrement dit, Bruno, prends soin de mon amour. Cette chanson-là, elle le ramène, Raphaël, quelques années en arrière, 25, 26, 27 années en arrière, une jolie période de sa vie.
C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée à une époque où je voyageais en Amérique latine, comme un touriste qui va voir le Machu Picchu, hein, mais je partais à la recherche comme ça d'un monde fantasmé, d'un monde des Incas, et j'avais ça dans mes oreilles. C'était le seul disque que j'avais dans mon Walkman à l'époque. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et je m'étais barré, j'avais une seule cassette. Donc forcément, quand on se barre 6 semaines avec une cassette, on l'use beaucoup. Je m'en suis pas lassé de ce disque. Je me souviens de décollage en avion. Pour moi, il est lié un peu au ventilateur des réacteurs. Vous voyez le bruit des réacteurs Rolls-Royce, des Boeing dans la nuit au-dessus de l'Amérique latine. Et puis, je voyageais avec une fiancée à l'époque. C'était délicieux.
Neil Young, il représente quoi pour vous ?
Une vraie forme de pureté artistique, quoi, une simplicité, et puis l'inverse de notre époque, j'ai l'impression. On a l'impression que le marketing n'existe pas, qu'il s'habille comme il s'habillerait tous les jours en sortant faire son jardin. Parfois, je l'ai vu sur scène en short, quoi, vraiment. Souvent, j'ai vu sur scène en short parce que c'est plus confortable, je pense. Et en même temps, il promène un pays avec lui. Je sais pas, on a l'impression que c'est les plaines indiennes, oubliées, disparues. C'est comme Faulkner, quoi. Il a ses états autour de lui, quoi. Son territoire. Puis, les histoires d'amour chez Neil Young, elles sont déchirantes, quoi. Elles sont une beauté implacable, d'une simplicité. J'avais lu un article de Welbeck qui parlait de Neil Young. Et ce qu'il disait était très juste. Il disait vraiment, c'est difficile d'être aussi naïf sans être nunuche, quoi. Sans être ridicule. Et lui, il arrive à être d'une naïveté totale et bouleversante beauté, de vérité. Tellement peu d'artistes arrivent à ça.
Look out for my love de Neil Young. C'était donc, Frédéric, le choix de Raphaël Haroche.
Chanteur et auteur de nouvelles. Son nouveau recueil, deuxième recueil, Une éclipse, vient de paraître chez Gallimard.
Le feuilleton, alors que la campagne présidentielle a pris son élan ce week-end, jusqu'à vendredi, nous retrouvons nos cinq Français dans la campagne. Nous les entendrons régulièrement jusqu'à l'élection. Est-ce qu'ils pensent voter en avril? Pour qui? Quels événements de campagne vont peser sur leur choix? Il y a 2 mois, nous avons fait connaissance avec eux. Deuxième salve, à partir d'aujourd'hui, est d'abord Simon. Il a 28 ans, il vit à Colmar, en Alsace. Début octobre, il nous disait que oui, il irait voter. Mais sans doute blanc, il dénonce un manque d'écoute entre les hommes et les femmes politiques, trop éloigné de ses préoccupations quotidiennes à lui. Il disait encore que si l'extrême droite passait, après tout, pourquoi pas, ce serait un électrochoc, même si ce n'est pas son vote. Parmi les sujets d'actualité qui l'ont intéressé ces dernières semaines, le sort des migrants. Ce qui a changé pour lui depuis octobre, c'est sa situation professionnelle. Au début de l'automne, il était au chômage et bénévole chez ATD Quart Monde. Deuxième touche du portrait, signé Simon Le Baron.
Alors nous voilà à ATD. Ta situation a un peu changé depuis la dernière fois.
Oui, j'étais bénévole à ATD Quart Monde. Et ayant une envie de un peu plus m'investir dans ATD, j'ai souhaité faire un volontariat, donc en fait être salarié d'ATD. On va aller voir l'atelier.
Comment tu définirais ton rôle et le rôle de l'association?
La valeur qui porte l'association, c'est une dignité pour tous. C'est un devoir de reconnaître tout le monde et de reconnaître la dignité de chacun.
Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet qui est suffisamment pris en compte dans la campagne présidentielle qui commence?
J'ai essayé de regarder un petit peu et j'ai essayé de me renseigner. Le peu de choses que j'ai vues ne va pas du tout dans le sens d'une discussion constructive. Quand on parle des migrants, c'est... Quand on parle des populations et des personnes qui viennent en France, la question c'est soit pour ou contre. Sauf que ça marche pas comme ça. Le monde, il est pas blanc ou noir. Quand les gens sont prêts à se noyer pour quitter chez eux, les refuser, ça changera rien. Il y aura juste un peu plus de gens dans la mer. Faudrait juste être honnête. On ne pourra pas empêcher les gens de venir. Est-ce que c'est humain de les laisser traverser la mer et de se noyer? Bah non, c'est complètement stupide. Et de toute façon, ils le feront même si on les renvoie chez eux. Donc, on fait avec et on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Il y a un moment, faut arrêter de se battre comme des chiffonniers, travailler ensemble et essayer de trouver une solution.
Alors.
Et on a un petit peu de terrain. Bon, dommage qu'on entende les voitures, mais... mais c'est sympa d'avoir un petit peu de jardin en plein milieu de la ville.
La dernière fois qu'on s'était vu, personne ne trouvait grâce à tes yeux et le monde politique ne te donnait pas du tout envie de voter, ou en tout cas de voter pour un candidat, puisque tu penses voter blanc en avril prochain. Est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu as trouvé un peu d'espoir dans les débats ces dernières semaines ou pas du tout?
Non, pas du tout. J'ai commencé à regarder un petit peu. Je fais un effort, on avait parlé de Philippe Poutou, et justement c'était une intervention sur France Inter. Le début de sa discussion paraissait intéressant. Et on a fini par le patronat, c'est des méchants, et ça m'a gonflé. Ça finit encore par pointer des gens du doigt. Il y a un moment, faut arrêter de dire qu'il y a des méchants, c'est le système qui est pourri, c'est le système. À part scinder la population en deux, on n'avance pas.
J'entends ton ras-le-bol des débats caricaturaux. Il y a un candidat, justement, qui, lui, se présente comme le candidat de l'unité, de la nuance, de la raison, face à des adversaires qui seraient trop radicaux et justement, comme tu le dis, caricaturaux. C'est Emmanuel Macron. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est la ligne qu'il tient en vue de cette élection présidentielle. Ça ne te convainc pas ?
Bah, non. Bon, après, malheureusement pour lui, il a été président pendant l'année Covid. Et quand une semaine sur deux, on est capable de se contredire, je pense que déjà, on est bien parti. Donc oui, c'est sûr qu'il est nuancé. Mais la question, c'est, faudrait peut-être déjà qu'il soit d'accord avec lui ou que les gens qui travaillent pour lui soient d'accord entre eux. Il suffit pas de dire que t'es pas d'un parti ou de l'autre. Quand tu dis que t'es pas d'un parti, mais que tu travailles pour le système avec le système, il y a un moment, ça a pas de sens.
Donc le dépassement des clivages, ni droite ni gauche, tu n'y crois pas non plus ?
Bah en fait j'y crois, mais pas si on travaille avec le système. Tant qu'on n'essaiera pas de faire des changements drastiques, et que de toute façon dans 5 ans ça sera quelqu'un d'autre qui enlèvera ou qui détruira tout ce que le mec a fait juste avant, à quoi ça sert qu'on aille voter ?
La suite au prochain épisode, on verra s'il y a un miracle d'ici là.
C'est ça, j'espère, je croise les doigts.
Et nos 5 Français dans la campagne, on les retrouve donc toute cette semaine. Nouvel épisode demain et la réalisation est comme chaque semaine de Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Entre pêcheurs, migrants, Brexit, les relations sont fraîches en ce moment entre France et Grande-Bretagne. Mais il y a, entre les deux pays, une intimité que l'on voit dans les langues respectives. En septembre, par exemple, le Premier ministre Boris Johnson s'adressait à la France en franglais. « Prenez un grip », disait-il, « donnez-moi un break ». Autrement dit, ressaisissez-vous, laissez-moi souffler.
Bah, ça témoigne tout de même du maintien d'une langue commune, même si elle est fautive. On se souvient du roi Édouard III, en pleine guerre de Cent Ans, qui soudain, en ramassant au pied de sa maîtresse sa jarretière, créa l'ordre du même nom, avec une phrase en français « On y soit qui mal y pense ». On y soit qui mal y pense. C'est le titre d'un livre d'une grande linguiste, Henriette Walter, qui vient d'être réédité dans une somme de ses œuvres dans la collection Bouquins. Henriette Walter s'intéresse particulièrement aux emprunts que les langues se font les unes aux autres. Eh bien, note-t-elle, si on considère les seuls mots de dimension internationale, l'anglais et le français en ont plus de 3000 qui, dans les deux langues, s'écrivent de façon identique et recouvrent le même sens. D'abandon, abattoir, abdication, A, Z, zone, zo. Un record d'intimité.
Alors que les deux langues sont d'origine bien différentes.
Bon, alors pour faire simple, en Angleterre, domination des langues germaniques. En France, du latin. Mais des événements politiques et militaires ont ensuite rapproché l'anglais et le français qui viennent de ces sources si éloignées. En 1066, Bruno, ouais. Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre. Il est duc de Normandie, le Normand a pour base le latin, et il va se répandre dans les milieux chevaleresques de l'autre côté de la Manche. Pendant les 3 siècles qui suivent, 13 reines d'Angleterre viendront de France. La cour d'Angleterre parle français. Au 12e siècle, l'anglais, on dit pour cette époque le moyen anglais,
bien,
emprunte davantage au français qu'au 11e. Davantage au 13e qu'au 12e, davantage au 14e, le moment de la création de la jarretière, qu'au siècle précédent, qu'on pense à affaires, monnaie, closet. Et des mots autres encore qui sont répertoriés par Henriette Walter témoignent de ce moment privilégié de partage.
Est-ce que les deux pays auraient pu finir par pratiquer une même langue de prestige, de pouvoir qu'aurait été le français de cour ?
Ben c'est ce que pense Henriette Walter. Après tout, dit-elle, les souverains anglais résidaient beaucoup dans leurs possessions françaises. Au pire moment de la guerre de Cent Ans, toujours elle, le vainqueur d'Azincourt, Henri V, était fait régent de France par le traité de Troyes, 1420. Mais Jeanne d'Arc vint. Alors, Harry, à lire Henriette Walter, toujours elle, on serait presque tenté de dire « Hélas, les troupes anglaises qui la combattent savent encore assez de français pour la traiter de putain, de vachère, et ces hommes de macro mécréants, mais l'intervention de Jeanne dans l'histoire va hâter la séparation des deux langues.
Bon, vous dites du mal de Jeanne d'Arc, mais en 1431, date de sa mort, l'anglais était déjà sorti de l'orbite du français.
Ben, c'est pas moi, hein, je ne suis que l'interprète d'Henriette Walter, qui souligne d'ailleurs, comme vous, cette autonomisation qui a commencé pour l'anglais au XIVe siècle. 1349, Oxford enseigne en anglais. 1362, le discours d'ouverture du Parlement se tient en anglais. Les contes de Canterbury, de Chaucer, mort en 1400, fondent la littérature anglaise. On peut tout de même, Bruno, faire semblant de regretter les moments où l'attractivité du français dominait. Ensuite, la puissance d'aimantation a été plus forte, c'est vrai, du côté de l'anglais, au XVIIIe surtout. Alors que le français était pourtant la langue internationale par excellence, les mots anglais ont pénétré en masse. Mais, à y regarder de près, dès le XVIe siècle, c'est le moment où s'introduit le mot « clown ». C'est un mot anglais, d'origine germanique, désignant un rustaud. Exemple, permettez-moi, quel dommage qu'un grand pays comme l'Angleterre soit dirigé par un clown. Il paraît que ce serait d'Emmanuel Macron. Enfin, je ne veux pas entretenir les mauvaises querelles.
Et le livre « Niçois qui mal y pense » d'Henriette Walter figure dans le volume de la collection « Bouquins » qui vient de lui être consacré. Merci Jean Lebrun et bien le bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Nous allons regarder les eaux usées tout
oui,
à l'heure.
Et on va y rechercher des virus par exemple.
C'est bien noté, à tout de suite.